إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مشايخ وسوغ، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le sujet d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, que nous allons voir ensemble et découvrir ensemble, concerne les stratagèmes de Satan. Asalib, Masalik, Shaitan. Donc les stratagèmes de Satan, les stratagèmes que Satan utilise pour égarer ses serviteurs, pour les écarter du chemin. Et il est important que vous sachiez, mes chers frères et sœurs, que Satan, Iblis, a pris un engagement devant son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il a pris un engagement ferme d'égarer le plus qu'il peut. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, nous relate cela lorsqu'il dit, parlant d'Iblis, lorsqu'il s'adresse à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, en disant, « Qala fe bi'izzatika » لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ. Il dit, je jure par ta grandeur, ta puissance, Ya Rab, لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, je vais tous les induire dans l'erreur. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ, sauf tes serviteurs que tu auras élus, que tu auras sauvés, préservés. Ceux-là seront à l'abri de mon stratagème. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a condamné Iblis à la malédiction, al-la'na wa tard, et qu'il a chassé, et qu'il a condamné à rester jusqu'à la fin des temps, à ce moment-là, également ici, Iblis, qui a refusé de se prosterner devant Adam, alayhi salam, comme nous allons le voir. Qu'est-ce qu'il dit? S'adressant à son Seigneur, il dit, « Qala fabima arwaytani la'aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim. » Il dit à son Seigneur, « Tu m'as induit en erreur, tu m'as chassé. » D'accord. « La'aq'udanna lahum sirataka al-mustaqim. » Je vais me mettre sur leur chemin, sur ton chemin droit. « Thumma la'atiyannahum min bayna aydihum min khalfihim wa'an aymanihim wa'an shama'ilihim. » وَلَا تَجِدُ أَكْثَارَهُمْ شَاكِرِينَ. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي, tu m'as induit en erreur, tu m'as écarté de ce chemin, tu m'as chassé de ton paradis, لَأَقْعُدَنَّ لَكُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ, je vais me mettre sur ton chemin droit, afin que je serve de barrière à tes serviteurs. ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ, et je les assaillerai par devant et par derrière. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, à droite et à gauche. Je viendrai de tous les côtés, les déranger, les écarter ton chemin. وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ. Et tu verras, il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, tu verras que très peu parmi eux seront des reconnaissants. شَاكِرِينَ. Donc on voit ici que cet engagement que Satan s'est pris, c'est d'égarer le plus qu'il peut de l'humanité, al-bashariya, de les sortir de ce chemin. Alors avant de découvrir son stratagème, d'abord qui est Iblis? Qui est-il? Bien sûr, je ne vais pas vous faire... Il n'a pas d'état civil, donc je ne vous ferai pas non plus son CV. Le CV d'Iblis, vous le connaissez, son curriculum vitae, vous le connaissez. Il n'a pas besoin de commentaires. Mais cependant, je trouve qu'il est important en deux mots de parler de lui. D'abord, il faut savoir que Iblis, le mot Iblis, vient du mot arabe al-Iblas. On dit en arabe ablasa fulan, c'est-à-dire que la personne a rompu tout espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est qu'il n'a plus de retour, il ne sait plus revenir vers Allah azza wa jalla. C'est pour cela qu'Iblis a été appelé Iblis. Parce qu'à partir du moment où il a refusé de se prosterner devant Adam, qu'il a désobéi à son Seigneur, Azza wa Jal, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'a chassé. Il l'a chassé et l'a condamné définitivement. Il n'y a plus de retour. Et c'est pour cela qu'il a été surnommé Iblis, comme l'indique un savant dénommé Raghib al-Asfahani dans son livre Mufradat ou Gharib Mufrad al-Quran. Aussi, il est important de savoir que Iblis lui-même fait partie des djinns. Ce n'est pas un ange, c'est un djinn. Et le verset 50 dans surat Al-Kahf, surat la grotte, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges de se prosterner à Adam. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, lorsque nous disions aux anges, اسْجُدُوا لِآدَمَ, prosternez-vous pour Adam. Fa sajadu, ils se sont prosternés. Il est Iblis. sauf lui. كان من الجن ففسق عن أمر ربي. Il faisait partie des djinns et il a désobéi. Donc il est sorti de l'obéissance à son Seigneur. Et c'est là que les savants disent que le premier péché qui s'est produit, son origine c'était l'orgueil, Al-Kibr. Parce que Iblis n'a pas accepté, dit comment moi je me prosterne devant lui. Qui est-il d'abord? Et c'est pour ça qu'Iblis dit Ana khayrun minhu dans le Coran. Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, quant à lui tu l'as créé d'argile. Et ici on voit que les djinns, mes chers frères et sœurs, comme il aurait été dans Sahih Muslim, d'après Aïcha radiallahu anha, les djinns ont été créés de feu, sans fumée. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, lorsqu'il dit, il dit « Khuliqatil malaikatu min nour » Les anges ont été créés de lumière. « Wa khuliqatil jan min marij min nar » Et les djinns ont été créés de feu sans fumée. « Wa khuliqa adam mimma wasifa lakum » Adam a été créé de ce qui vous a été décrit. On peut demander, inchallah, aux frères de se rapprocher. « Barakallahu fikum jami'a » Donc on voit ici, mes chers frères et sœurs, que « Shaitan Iblis » est un djinn. Quant aux nombreux récits qu'on trouve dans les livres de tafsir, où on nous relate pas mal d'explications, plutôt de commentaires, d'histoires le concernant, comme quoi il détenait l'autorité des cieux et de la terre au nom de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Tous ces récits ne tiennent pas debout, car ce sont ce qu'on appelle des narrations israélites, donc israéliates, et il est connu que les israéliates, on doit les mettre de côté. Bien bon, il y a un développement par rapport à ça, mais par rapport à ce point-là, vu que nous n'avons aucun détail à ce sujet, eh bien il convient de s'abstenir de se prononcer. On retient que c'est un djinn, qu'Allah Azzawajal lui a donné le privilège d'être aux côtés des anges, pas plus. Et il a désobéi. Aussi, mes chers frères et sœurs, sachez que Iblis a installé son trône, parce qu'il veut concurrencer le Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Il sait qu'il est perdant d'avance, mais il tient quand même à concurrencer son Seigneur, Azzawajal. Et Allah lui a donné ce délai, afin qu'il agisse comme il a envie. Dans Sahih Muslim, d'après le compagnon Jabir ibn Abdillah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Inna Iblis » يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ Donc Iblis a installé son trône sur la mer. ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَيَهُ Ensuite, il envoie ses bataillons, les siens, afin qu'ils aillent faire la fitna par-ci par-là. فَأَقْرَبُهُمْ مَنْزِلًا أو مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً Le plus proche de ses collaborateurs, celui qui est le plus proche, c'est celui qui a fait le plus de désordre, le plus de fitna. Et lorsque l'un d'entre eux part, il vient, il dit فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا J'ai fait ceci et cela. Il vient faire son rapport, compte rendu. Parce que vous voyez, il a un patron. Il a un supérieur, il faut bien qu'il lui donne des. Hein, qu'il fasse un compte rendu. Il dit voilà ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai fait ceci et cela. Et c'est là que Iblis lui dit Ma sanata shayn, toi t'as rien fait. Ma sanata shayn, tu n'as rien fait du tout. Un autre vient et dit Ma taraktuhu hatta farraktu baynahu bayna ahli. Je ne les ai pas quittés jusqu'à ce que je les séparé de sa famille. Donc j'ai fait éclater une famille. Il lui a fait Udnu minni. Fa adna, et dans un autre loft, fal tazamahu. Fa qal ni'ma ant. Iblis lui dit, viens, toi tu peux te rapprocher de moi. Reste à mes côtés. Et lui a dit, ni'ma ant, donc ô combien tu es noble, toi. Toi qui as fait tout cela, toi qui as semé cette discorde, cette division, tu es le plus proche de moi. Aussi, nous sommes toujours dans, la découverte d'Iblis, qui est-il. Aussi, il est important de savoir qu'il a une descendance. Et un jour, l'imam Shaabi, rahimahullah, il y a un homme qui est venu le voir, en lui disant, dis-moi un peu, Iblis, a-t-il une épouse? Alors l'imam Shaabi a fait bien sûr qu'il est l'épouse. La preuve de cela, c'est le verset. C'est la suite du verset 50 dans Surat Al-Kahf. أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ Le prenez-vous ainsi que sa descendance comme étant des alliés en dehors de moi, alors qu'ils sont des ennemis pour vous? Et bien sûr, la question idiote, à 5 francs comme on dit, que cet homme a posé après à l'imam Shaabi. Lorsqu'l'imam Shaabi lui a montré qu'Iblis a une épouse et il a une descendance. Il lui dit, quand s'est-il marié? Et c'est là que l'imam Shaabi fait, ah ça, c'est un mariage auquel je n'ai pas assisté. Concernant les noms de Satan, l'imam Al-Qurtubi dans son tafsir a relaté, lorsqu'il l'a expliqué, lorsqu'il a parlé de Satan, il a relaté de nombreux noms concernant chaque Satan, ce qu'il faisait comme fonction. Ici aussi, mes chers frères et sœurs, tous ces noms, il n'y a aucun qui tient. Il n'y a aucun qui nous est parvenu de sources sûres et authentiques. Ce sont de nouveau des israéliates, des narrations israéliennes. Un seul nom qu'on connaît, c'est Khanzab, dans Sahih Muslim. Khanzab, c'est ce Satan qui vient déranger le croyant pendant la prière. Il essaie de le perturber, de lui faire perdre donc ses repères lorsqu'il lit. Et on va voir ça avec nous après, Inch'Allah. Lorsque le compagnon Uthman ibn Abil As est venu voir le prophète, sincèrement se plaignant en disant « Inna shaitana qad labbasa alayya shaitan, Satan m'a quelque peu perturbé dans ma prière. Je ne sais plus ce que j'ai lu. » Alors c'est là que le prophète, sincèrement le dit « Dhaka shaitan yusamma khanzab » Et on peut dire Khanzab, Khinzab et Khunzab. Donc il y a un choix au niveau de son nom. Khanzab, Khinzab ou bien Khunzab. Donc il dit, le prophète sallam dit, si tu le sens, faïda ahsastahu, si tu le sens arriver, il vient te perturber dans la prière, eh bien tu peux dire, A'oudhu billah. Ta'awwadh minhu, tu, en pleine prière, tu peux dire A'oudhu billah. Et crache légèrement à ta gauche. Attention, je rappelle mes frères ici. C'est souffler légèrement. Pas que ton voisin à côté, tu lui balances. Pour me dire un molar, miskin. Comprends, je sais pas ce qui se passe. Non. Donc, cracher légèrement, vraiment légèrement. C'est comme si tu soufflais, en fait, trois fois à ta gauche. Donc, faites attention à ça. Hein. Pas cracher. Taïb. Donc, l'imam Qurtubi rahimahullah, dans son tafsir, il relate, d'après Ibn Atiyah, que tous ces noms n'ont aucune origine sûre et authentique, si ce n'est bien sûr Khanzab. Et dans un hadith rapporté par Tirmidhi, mais qui est un hadith malheureusement da'if, on dit qu'il a comme nom un autre shaitan qui viendrait déranger le croyant, déranger le croyant durant ses ablutions par le chemin de l'ouest-ouest. Il existe, il ne doit pas le nier. Mais quant à son nom, comme il est relaté dans ce hadith qui est faible, da'if, on dit qu'il s'appelle Al-Walahan. Ici aussi, il faut savoir, mes chers frères et sœurs, que ce hadith d'arif, il ne sait pas. Mais il est vrai qu'il y a un Satan spécialement, qui a pour profession et métier, qui est formé pour ça, pour venir faire l'ouest-ouest aux croyants. Tu fais des ablutions, tu ne sais plus comment tu as fait. J'ai fait trois fois, quatre fois, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai fait mon pied, j'ai pas fait ma tête. Bref, il te perturbe afin que tu passes ton temps à répéter. Et une fois, on m'a raconté qu'il y en a, il répétait ses ablutions près de 20 fois, tellement qu'il est l'ouest-ouest. Vraiment l'exagération. Également, mes chers frères et sœurs, toujours dans la présentation de Iblis, on est un peu obligé. Shaitan, Allah Azzajal, lui a donné le pouvoir de se présenter ou de prendre l'apparence humaine. Il est capable. Comme le relate Ibn Mas'ud dans Sahih Muslim, il nous rappelle que Shaitan peut prendre l'apparence d'un être humain, venir s'asseoir avec les gens, discuter avec eux, leur sortir des mensonges. Et puis il s'en va et lorsqu'il part, c'est là qu'une personne se dit, tiens, une fois il y a un qui est venu, on se rappelle de son visage, mais on ne sait plus comment il s'appelle. Donc il est capable de venir sous la forme humaine et c'est arrivé également à Abu Huraira lorsqu'un Satan est venu donc pour voler donc des dates qui étaient réservées pour la sadaqa, pour l'aumône et que Abu Huraira l'a attrapé. Et ça on va voir une charge plus tard, qu'est-ce qu'il en est exactement. Alors pourquoi on l'a appelé Shaitan? Pourquoi l'a-t-on appelé Shaitan? Un peu de langue arabe inshallah. Le mot Shaitan vient du mot arabe Shatona qui veut dire Ba'ouda, c'est-à-dire quelqu'un qui était éloigné. Lorsqu'on dit Shaitan, c'est celui qui était éloigné. Il était éloigné de la clémence d'Allah Azza wa Jal, il était éloigné de sa miséricorde, de son pardon. Et il est important de rappeler, mes chers frères et sœurs, que le mot shaitan ne s'adresse pas seulement aux djinns, mais aussi aux êtres humains. Il y a des hommes aussi qui sont des shayatins. Par leur comportement, par leur attitude, on a l'impression qu'il y a un Satan qui habite en eux et qui leur dicte ce qu'ils doivent faire. Et ça, le Coran le prouve. Le Coran le prouve lorsqu'il parle, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a fait des ennemis pour les prophètes. Et ces ennemis, ce sont des humains, des djinns. Lorsqu'il dit, subhanahu wa ta'ala, il dit « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Et nous avons assigné à chaque prophète un ennemi faisant partie des satans, de djinns et humains. Donc, lorsqu'on parle de shayatin, il faut rappeler, mes chers frères et sœurs, que ce n'est pas particulier aux djinns, mais il y a malheureusement des êtres humains qui ont des comportements de shayatin. Ils ont des comportements donc sataniques. Ça, c'est donc, bien sûr, la présentation, en deux mots, la carte d'identité donc de Iblis. Quant à ces méthodes, le Coran, lorsque nous retournons à la parole de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, nous voyons qu'Allah Azza wa Jalla nous a décrit les stratagèmes d'Iblis. Nous a expliqué qu'est-ce qu'il faisait exactement, comment il essayait d'induire les gens en erreur, de les sortir du chemin. Et je vais vous résumer, inshallah, quelques-unes de ces méthodes, telles qu'elles ont été citées dans le Coran, avant de passer au vif de notre sujet. La première méthode, c'est ce qu'on appelle l'istizlal. L'istizlal, c'est faire glisser quelqu'un dans quelque chose. Comme il a fait avec Adam et Hawa. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit, ne mangez pas de cet arbre. Qu'est-ce qu'il leur a fait lui? Il leur a dit, il est venu vers eux, il a commencé à les influencer. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Donc, Shaitan est venu, il les a glissés, il les a poussés à commettre ce péché. Et c'est comme ça qu'il fait avec nous. Il nous pousse progressivement, pas à pas, jusqu'à ce qu'on tombe dans le péché. Et il nous fait des introductions, muqaddimat. Il nous fait des introductions afin qu'on tombe. Et c'est après qu'on regrette, heureusement que nous sommes encore vivants pour se corriger, mais en tout cas lui, il a marqué un point, voyez-vous. Donc l'istizlal. Deuxième chose, il leur donne le mal, al-fahsha. Tout ce qui est mauvais, répugnant, il leur donne. La perversion, al-fisq, l'injustice, al-dhulm, al-kadhib, le mensonge, al-nifar, l'hypocrisie, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est répugnant, Satan leur donne. Allah Azza dans le Coran nous dit, al-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'umurukum bil-fahsha. Satan vous promet la pauvreté, donc il empêche le croyant de faire ce qu'on appelle infar fi sabil, de dépenser dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Il dit ne dépense pas, tu vas devenir pauvre. Et il vous ordonne de faire donc des choses répugnantes. Également, parmi ces méthodes, troisième, il promet la pauvreté et de faux espoirs. La pauvreté, on en a déjà parlé précédemment. Quant aux faux espoirs, et ô combien il fait ça, surtout parmi les jeunes, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum shaytanu illa ghurura. يعيدهم ويمنيهم
il leur fait des promesses. Et il alimente en eux des espoirs. Alors qu'en réalité, ce que Shaitan leur promet,
ce sont des choses superflues. C'est un mirage, sarab, rien de fondé. Également parmi ces méthodes, telles que le Coran nous l'a relaté, telles que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous l'a relaté, il essaie de nous faire peur. Il essaie de nous montrer que nos ennemis sont plus forts que nous, afin qu'on se plie, qu'on ait peur d'eux. Comme il a fait avec les premiers musulmans dans de nombreuses batailles, il essayait de faire croire aux musulmans: faites attention, votre ennemi, il est très très puissant, beaucoup plus puissant que vous. Et Allah Azza wa Jalla nous donne une leçon en disant: ne croyez pas ce qu'il dit. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. Il dit ça, c'est Satan qui essaye de vous faire peur de ses adhérents, de ses partisans à lui. Allah nous dit: فلا تخافوهم. N'ayez pas peur d'eux. وخافوني إن كنتم مؤمنين. Ayez peur de moi si vous êtes véritablement croyant. Donc on ne doit pas avoir peur de Satan et de ce qu'il essaie de nous insuffler. Également parmi ces méthodes, cinquièmement, تزيين الأعمال. Il essaie d'embellir ce qu'on fait de mal. De mauvaises actions, ma'asé, des péchés, il essaie de les embellir, de les faire passer sous une belle forme. Comme le shirk par exemple, le polythéisme, le shirk, et tout péché, qu'il soit grand ou petit, Satan fait tout pour l'embellir. Et lorsque vous retournez à la sourate An-Naml, la sourate les fourmis, lorsque Allah Azza wa Jal parle de la reine de Saba, et comment elle coulait dans elle et son peuple, dans le polythéisme, et qu'eux ils trouvaient que c'était bien, qu'ils n'avaient pas de problème, que c'était une façon d'adorer Dieu correctement, comme ils disent. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. Satan, qu'est-ce qu'il a fait à ces polythéistes, à ces gens dans le péché, dans la turpitude? Il aura embelli leurs actions. Il leur a dit: c'est pas grave ce que vous faites, c'est très bien. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. Et il les a écartés du chemin. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Et ils n'arrivent pas, ces gens écartés du chemin, n'arrivent pas à revenir vers ce chemin. Également, et ça c'est le plus répandu aussi parmi ces méthodes, al-waswasa, qu'on appelle ce qu'on connaît donc sous le nom de l'waswas. Il vient faire l'waswas, il vient nous insuffler des pensées dans nos consciences, comme il a fait également à Adam alayhi salam, en lui promettant l'éternité s'il mangeait de cet arbre, et en lui promettant également un royaume impérissable. Fawaswasa ilayhi ash-shaytan faqala ya adam hal adulluka ala shajar al-khuld. Donc Satan est venu influencer, donc Iblis est venu influencer, est venu faire le waswas, insuffler des pensées à Adam en lui disant: hal adulluka, veux-tu que je t'indique l'arbre d'éternité? Wa mulkin la yabla, et un royaume impérissable, veux-tu que je te l'indique? Va manger de cette. Et c'est comme ça que fait Iblis avec nous. Il nous présente une chose sous une belle apparence, question de nous faire tomber donc dans son piège. Également, mes chers frères et sœurs, l'oubli, An-Nisyan, il fait tout pour nous faire oublier le rappel d'Allah Azza wa Jal. Il fait tout pour nous faire oublier l'appel d'Allah Azza wa Jal. Il fait tout pour que nos consciences soient occupées, soient travaillées, soient préoccupées par ce bas monde, Dunya. Il fait tout pour ça. Parce que son ennemi, c'est dhikrullah Azza wa Jal. C'est se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son ennemi. Istahwada alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikrullah. Istahwada alayhim ash-shaytan, il les a envahis. Shaytan les a envahis fa ansahum dhikrullah. Il leur a fait oublier le rappel d'Allah Azza wa Jal, comme on va le voir, Inch'Allah. Et dernièrement, parmi les méthodes que le Coran nous a citées, ce qu'on appelle Al-Nazr. Al-Nazr, c'est, il sème la confusion, il sème le désordre entre les gens. Comme le dit le Seigneur, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُلُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنَ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِغُ بَيْنَكُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُلُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. Et dis à mes serviteurs qu'ils disent les meilleures paroles. Inna shaytana yanziru baynakum. Donc Satan qu'est-ce qu'il fait? Satan, il essaye de semer la discorde et la division. Comme il est relaté dans Sahih Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a observé deux hommes en train de s'insulter. Rajulani yastabban. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je connais un mot que s'ils le disent, ça va les calmer. Ils doivent dire: a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ça va les calmer. Donc on voit ici que il fait tout pour semer cette confusion. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam relate dans un hadith rapporté par Muslim et Tirmidhi et d'autres, il relate que Satan a désespéré qu'Allah Azza wa Jalla soit plutôt que quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré, le shirk, dans la péninsule arabique Al-Jazira. Lakin bit-tahrishi baynakum. S'il n'a pas réussi à vous faire tomber, si plus tard il ne réussira pas à vous faire tomber dans le shirk, dans le polythéisme, il va faire autre chose. Al-tahrishi baynakum. Il va essayer de semer la discorde, la division entre les gens. Combien de fois on entend deux frères qui discutent entre eux? C'est une simple discussion, ou deux sœurs par exemple. Au début, la discussion est normale, le ton est normal, et puis du coup, le ton commence à monter. Alors qu'au début, il n'y avait rien entre eux, absolument rien. C'était très amical et très calme. Et du coup, ça monte, la tension monte, et tout explose. Et du coup, à la fin, quelquefois même, malheureusement, cela se transforme en haine et mépris. Alors pourquoi ? pourquoi avons-nous choisi ce sujet? Pourquoi choisir ce sujet, mes chers frères et sœurs? Surtout pendant ce mois, donc de Ramadan. Ce que vous devez savoir, mes chers frères et sœurs, que Satan fera tout pour faire en sorte que si le croyant prend de bonnes décisions, si le croyant prend de bonnes décisions et de bonnes résolutions durant ce mois, de revenir vers Allah Azza wa Jal, de se repentir, de se corriger, si le mois sort, il fera tout pour l'écarter. Il fera tout son possible pour l'écarter de ce chemin. Et il suivra toutes les pistes possibles et imaginables pour l'écarter, pour l'égarer. Ça, vous devez savoir ça. Et Allah Azza wa Jal nous a ordonné de prendre Satan comme ennemi. On ne doit pas pactiser avec lui. On doit le prendre comme ennemi. Lorsque le Seigneur subhanahu wa ta'ala dit « Inna shaitan lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Inna shaitan lakum adu, Satan est votre ennemi. Fattakhidhuhu aduwan. Prenez-le comme tel. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. » En réalité, il appelle ses partisans pour qu'ils fassent partie des gens de l'enfer. Donc, ici, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'ordre de prendre Satan, Iblis, ainsi que ses partisans, comme ennemis. Également, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous rappelle que même s'il suit toutes ces pistes, en réalité, son complot à lui, son stratagème est très faible. On ne doit pas se laisser influencer ou bien, comment dire, émerveiller par ses plans. En réalité, son stratagème à lui est très faible. Écoutez ce que dit le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il dit « Faqatilu awliya ash-shaytan. Inna kayda ash-shaytani kayna da'ifa. » فَقَاتِلُوا أَوْلِيَا الشَّيْطَانِ. Combattez les partisans de Satan. إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَيْنَ دَعِيفَ. Car en réalité, le stratagème, le complot de Satan est faible. Alors quelles sont ces pistes, mes chers frères et sœurs, qu'il essaie de suivre pour nous écarter du chemin, pour nous égarer? Et vous avez vu au début, je vous ai cité au début le verset où il promet à son Seigneur subhanahu wa ta'ala de tout faire, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous égarer, par n'importe quel chemin, n'importe quelle porte où il peut profiter pour nous égarer, qu'elle soit minime. Que cet égarement soit moindre ou important, peu importe, le plus important, c'est qu'il égare. Alors, nous avons un savant dénommé Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Madarij Salikin. C'est un livre qui a été traduit en français, qui porte le nom maintenant, c'est un livre jaune, les sentiers des itinérants. Donc, il a été traduit sous ce nom, les sentiers donc des itinérants. Et c'est là que Ibn al-Qayyim a cité les six pistes, ou les six chemins, par lesquels Iblis, Satan fait tout son possible pour nous égarer. Alors on va commencer par la première de ces pistes, le premier de ces obstacles qui nous met sur notre chemin afin de nous égarer. Le premier obstacle, al-kufru billah. Al-kufru billah wa bi liqa'ihi wa dinihi. Al-kufru billah wa bi dinihi wa liqa'ihi. La mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala, en sa religion, en sa rencontre. Il fait tout son possible pour faire tomber le croyant dans la mécréance. Il fait tout son possible pour le faire tomber dans le shirk, le polythéisme. Il fait tout ce qui est possible, imaginable pour ça. Regardez ce que Allah Azza wa Jalla nous dit de lui dans la sourate, le rassemblement, la sourate Al-Hashr. Allah Azza wa Jalla nous parle de sa tactique, comment il nous fait tomber de la mécréance, ensuite il se retire. Il dit, moi j'ai rien à voir dans l'histoire. Il dit, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كَفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. C'est étonnant. Vous avez entendu ça? Donc ici, dans cette sourate, Allah Subhanahu wa Taala nous donne l'exemple de Satan. Il dit, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ, tel Satan. إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كَفُرْ. Il dit à l'être humain, mécrois, vas-y, mécrois. فَلَمَّا كَفَرَ. Et lorsque l'être humain mécrois, qu'est-ce qu'il lui dit? قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ. Je suis innocent de toi. إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Moi, j'ai peur d'Allah, le Seigneur des mondes. Je suis innocent de ce que tu fais. Et c'est comme ça qu'il fait avec nous. Lorsqu'il nous fait tomber dans la mécréance, ou dans le péché, ou dans la turpitude, il se retire. Il dit, moi, j'ai plus rien à voir. Je crains mon Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par le Bukhari Muslim et d'autres, il relate que Satan, qu'est-ce qu'il fait quelquefois? Il pose des questions en nous-mêmes, sur d'où est-ce. Et certainement, parmi nous, il y a certainement des personnes qui ont eu ça. Il pose des questions. Il te dit, Man khalaqa kada? Qui a écrit ceci? Tu vas répondre, Allah. Ensuite, il fait, Man khalaqa kada? Qui a écrit ceci? Tu réponds, Allah. Jusqu'à ce qu'il arrive, il te dit, Man khalaqa Allah? Qui a écrit Allah Azza wa Jal? Donc, il te fait tomber dans un tourbillon, dans un cercle vicieux, afin qu'il te mène droit vers la mécréance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise que si maintenant il arrive à ce degré-là, il dit فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهُ وَلْيَنْتَهِ. Si l'un d'entre nous, Satan, a réussi à nous poser ces questions en arrivant jusqu'à ce qu'il nous dit مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ. Qui a créé ton Seigneur? C'est là que nous devons dire, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous disions أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, et qu'on arrête, qu'on coupe court, qu'on essaie de préoccuper notre conscience par autre chose, afin qu'il ne revienne plus nous poser la même question. Et dans une narration rapportée par Muslim, le prophète nous recommande de dire Amantu billahi wa rasulihi. J'ai cru en Allah et en ses messagers. Regardez comment ces tactiques sont très subtiles. Il fait tout par le ouswas, il fait tout
pour nous égarer. Par le waswas, il fait tout pour nous faire tomber dans ce qui n'est pas permis.
Et il y a une histoire que certains savants relatent dans leurs livres, je l'ai sûrement déjà relaté parmi vous ici.
Ça se passe en Tunisie, à l'époque de ce qu'on appelait donc Qayrawan, qui était une grande ville de science, qui était la capitale de la science, de l'ilm, donc au Maghreb à l'époque.
Et il y avait une jeune femme ou une jeune fille, qui était la fille d'un savant très connu, renommé dans cette région, qui est sortie donc, au marché ou pour une chose quelconque, et s'est perdue. Elle s'est perdue dans les ruelles et les sentiers donc de la ville. Et regardez, ici c'est pour souligner l'ouest-ouest. Regardez comment Satan fait tout par l'ouest-ouest pour faire tomber dans ce qui n'est pas permis. Et c'est alors que la nuit est tombée. Et vous savez, à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, il y a des lumières partout, il y a des lampadaires. À l'époque, ça n'existait pas. Il fait sombre. Alors elle a commencé à s'orienter, cette jeune fille, pour essayer de trouver un refuge jusqu'au matin. Et de là, elle essaiera de s'orienter pour revenir donc à sa demeure. Elle a trouvé une maison, une maisonnette. Il y avait une lumière dedans. Elle a frappé à la porte. Et lorsqu'elle a frappé à la porte, un jeune homme lui a ouvert la porte. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Lui dit, est-ce que tu me permets de rester chez toi jusqu'au matin? Car je n'ai pas où loger dans la rue. Je vais loger où? Lui dit, écoute, je suis seul, je vis seul. Je ne peux pas te faire entrer toute seule ici. Elle a dit, laisse-moi près de la porte. Fais-moi entrer, mais que je reste près de la porte. Il a accepté. Elle est entrée, regardez. Elle est entrée, cette jeune femme ou cette jeune fille s'est installée près de la porte, à l'intérieur. Et elle a remarqué que ce jeune était un talib ilm. C'était quelqu'un qui étudiait. Donc l'islam, les sciences islamiques. Il avait ses livres, il avait sa bougie et il lisait. Et elle a remarqué qu'à un moment donné, il commençait à brûler ses doigts. La bougie, il a commencé à glisser ses doigts, elle est brûlée, les uns après les autres. Elle n'a pas compris qu'est-ce qu'il fait celui-là. Moi je me dis non, il est fou là, qu'est-ce qui lui arrive? Vous avez déjà vu quelqu'un qui brûle ses doigts sur une bougie? Donc le matin est venu, elle est partie. Elle a retrouvé son chemin et a retrouvé son père. Et qassat ala abiha, donc elle a raconté à son père cette histoire. Son père était étonné. Or, il s'avère que ce jeune était un élève de son père. Ce jeune était un élève de son père. Regardez bien, le père qui est un grand professeur de science, un homme de science, lorsqu'il donnait cours, il a remarqué dans l'assemblée donc un jeune qui avait un bandage sur sa main. Et il s'est rappelé l'histoire, il s'est rappelé ce que sa fille lui a raconté. Alors après le cours, il l'a convoqué. Viens ici, qu'est-ce qui t'est arrivé à ta main? Il n'a pas voulu dire, il n'a pas voulu parler. Il a fait ça, c'est hada amrun bayni. Ça c'est une chose entre moi et mon Seigneur. Il a fait coup, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me dises, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu me dises pourquoi tu as ce bandage. Il a dit, voilà, je vais te raconter. Regardez, at-taqwa, la crainte d'Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'elle fait? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. La crainte d'Allah Azza wa Jalla vous ouvre beaucoup de portes, mes chers frères et sœurs. Il a dit, voilà, mon cher professeur, il s'avère qu'hier soir, il y a une jeune fille qui est passée, et donc il a raconté l'histoire. Il a dit, alors qu'elle était devant le seuil de la porte, donc à l'entrée, il a dit, Satan est venu m'attaquer. Il m'a dit, profites-en, c'est une jeune fille charmante, toute seule, personne ne te voit, profites-en pour faire le donc zin al-fahisha. Tu es seul, il n'y a personne qui te voit. Il a dit, pour repousser ce souhait de Satan qui était fort en moi, parce que je suis un être humain, je suis tenté, j'ai commencé à brûler mes doigts, pour que je pense à la douleur, que je ne pense pas à ce qu'il me dit. Voilà, il a préféré brûler ses doigts et souffrir physiquement, que de prêter oreille, que de prêter attention à ce que lui dit Iblis, Satan. Et sa récompense bien méritée, vous connaissez certainement la fin, sa récompense bien méritée, c'est que le cher, cet homme de science, lui a donné sa fille en tant qu'épouse. Il lui a dit, voilà ma fille, je te l'offre en tant qu'épouse. Voilà, c'est sa taqwa. Celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères et sœurs, croyez-moi, avec la taqwa, avec la crainte d'Allah azza wa jal, beaucoup de portes s'ouvrent. Mais malheureusement, nous oublions tout cela. Donc ça, c'est la première tentative de Satan. Il essaie de faire tomber le croyant dans la mécréance, dans le shirk. Et s'il n'arrive pas, et que le croyant réussit à sortir de ce piège par la foi, par la guidance et le hidayah, il l'attend sur un autre terrain. Il n'a pas réussi à le faire adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'attaquer sur un autre terrain, qui est encore beaucoup plus sensible. C'est le terrain de la bid'a, l'innovation. Le terrain de la bid'a, l'innovation. Il essaiera de lui faire croire ce qui est contraire à ce qu'Allah azza wa jalla a descendu et a fait envoyer via ses messagers. Ou alors il le poussera à adorer son Seigneur avec des pratiques ou par des pratiques et des rites qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélés. Il donnera une belle apparence à la. Et Allah subhanahu wa ta'ala met en garde ces gens qui essaient d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation. Parce que lorsqu'on dit bid'a, innovation, c'est comme si on disait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas complété sa législation. Il y a encore quelque chose qui manque. C'est à nous de le rajouter. Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala met en garde contre cela. Il dit « Am lahum shuraka, shara'u lahum min ad-din » Ont-ils des associés qui leur ont légiféré de la religion ce qu'Allah n'a pas permis?
Et Ibn Jawzi dans son tafsir Zad al-Masir précise qu'ici il s'agit de ce qu'on appelle al-ibtida', l'innovation. Donc à partir du moment où on accepte al-bid'a', l'innovation, eh bien c'est le rêve d'Iblis. Il n'a pas réussi à t'attaquer sur l'ikhlas, sur le dévouement pour Allah subhanahu wa ta'ala, sur le fait que tu voues entièrement tes actions à Allah azza wa jalla. Il n'a pas réussi à te sortir de là, il va t'attaquer par l'autre chemin. Par la deuxième condition, des conditions qui font que nos actions sont acceptées, qui est ce qu'on appelle al-mutaba'a, donc la conformité au message de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Malik rahimahullah, comme l'a relaté l'imam Shah dans l'Irtisam, il dit: man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan qad khana ar-risala. Celui qui innove dans l'islam, qui rajoute une bid'a et qui ose dire après, comme on entend souvent de nos jours, on nous dit qu'il y a une bonne bid'a. Subhanallah, le prophète dit kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fil nar. Donc chaque bid'a est un égarement et l'égarement mène vers l'enfer. Et on trouve encore des gens qui nous disent aujourd'hui: non, il existe une bonne bid'a, il y a des bonnes et des mauvaises, donc tu choisis. Dans ce self-service. Donc, il dit: celui qui prétend, celui qui innove dans l'islam, une innovation, bid'a, yara hasana, et qui prétend qu'elle est bonne, faqad za'ama anna muhammadan qad khana ar-risala, il aura prétendu que Muhammad a trahi le message. Il relate le verset dans sourate Al-Ma'ida: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'agrève pour vous comme religion d'islam. Et je vous ai complété mes bienfaits et j'ai agréé pour vous comme religion, donc l'islam. Donc avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après cela il n'y a plus rien. Après cela, tout est codifié, tout est établi, surtout au niveau de ce qui est adoration, al-ibadat, et il n'y a rien à rajouter à ce niveau-là. Et vous devez savoir aussi, mes chers frères et sœurs, que les innovations, al-bid'ah, sont plus dangereuses que les péchés. Al-bid'ah, akhtaru min al-dhunub. Au point que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans le Fatawa, il dit, wa li hadha ittafaqa a'imatu al-islam. أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب. Il dit: les savants de l'islam sont tous d'accord que ces innovations grandioses sont pires que les péchés. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui fait un péché, il sait qu'il est dans le péché, qu'il a fait une erreur. Mais il a fait concession à sa propre passion, par faiblesse. Par contre, celui qui fait une bid'a, le drame chez lui, c'est qu'il croit qu'il fait juste. Il croit que ce qu'il fait est bon. Il croit qu'il est dans le bon chemin. Il ne fera pas marche arrière. Voilà la différence entre les deux. Et c'est pour cela que le professeur Asselin précise que le repentir concernant l'innovateur et le mubtadir est très difficile. Parce qu'il croit se rapprocher, il fait une innovation, il croit se rapprocher de son Seigneur par cette innovation. Et c'est pour cela que le professeur Asselin, dans un hadith que Cheikh Al-Albani rahimahullah a authentifié dans As-Sahiha, rapporté par Tabrani ainsi que Al-Bayhaqi et d'autres, il dit: Inna Allah qad hajaba at-tawbata an sahib al-bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala a mis un voile entre le repentir et celui qui commet donc une innovation, parce qu'il croit qu'il est dans le juste. Donc faites la différence entre les deux. Entre le péché et l'innovation, al-ma'asiyah, le croyant sait qu'il est en tort. Il sait qu'il fait des erreurs. Il sait qu'un jour ou l'autre, Inch'Allah, il reviendra. Par contre, celui qui fait une bid'a, c'est le contraire. Il croit, il est convaincu qu'il est dans le vrai. Que ce qu'il fait est juste, que c'est correct. Voilà la différence. Et c'est pour cela que Sufyan al-Thawri, rahimahullah, parmi un imam des premières générations de l'islam, il dit, al-bid'atu ahabu ila iblis min al-ma'asiyah. Al-bid'atu ahabu ila iblis min al-ma'asiyah. L'innovation est beaucoup plus aimée auprès d'Iblis que le péché. Il préfère que tu tombes dans une innovation qu'un péché, pour la raison qu'on a citée. Parce que le péché, tu peux très bien te repentir et te retirer, pas la bid'a. L'innovation, en général, tu vas rester dedans, parce que tu crois que c'est ça la vérité. Et bien entendu, ici aussi, dans cette deuxième piste, qui est la bid'a, lorsque le Satan n'arrive pas à vous faire tomber dans le shirk, dans la mécréance, il n'arrive pas à vous faire tomber là-dedans, et qu'il essaye de vous faire tomber dans l'innovation et le bid'a, afin de faire annuler vos actions, parce que le prophète sallam le dit. Dans Sahih Bukhari Muslim, il y a deux narrations: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui innove et qui rajoute dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, eh bien cette action, ce geste est rejeté et condamné. Alors après ça, c'est le croyant et la croyante réussit à se sauver de ses griffes, des griffes de l'innovation, eh bien à ce moment-là, et qu'il réussit, le croyant, à s'accrocher à la sunna, et à s'éclairer par la lumière de la sunna, et de la conformité au message, à ce moment-là, Iblis et Satan nous attendent sur une autre piste. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est infatigable. Il ne connaît pas de chômage technique, il n'y a pas de chômage technique chez lui. Il ne prend pas 6 mois, 5 mois de repos, après il revient, non. Jour et nuit, il est là. Il est là jour et nuit. Et même certains gens de science disent que, quelquefois, Satan, c'est lui qui apprend le mal, quelquefois c'est l'inverse. On dit quelquefois c'est l'inverse, c'est Satan qui apprend de l'être humain le mal, des choses à laquelle il n'a pas fait attention. Voyez-vous? Donc, ça c'est la deuxième piste. La troisième piste, le troisième terrain sur lequel il nous attend, impatiemment, c'est le terrain des grands péchés, al-kaba'ir. Al-kaba'ir, il fait tout pour nous faire tomber dans un grand péché. Et pas seulement ça, il essaie de nous faire passer, ou de nous embellir ce grand péché, afin qu'on l'accepte et qu'on le fasse passer comme si de rien n'était. D'accord? Et bien plus, il nous dit: c'est pas grave, Allah est pardonneur. Allah pardonne. Continue seulement. Et ici, mes chers frères et sœurs, Satan, dans le fait de nous faire tomber dans les grands péchés, il a deux portes. Il utilise deux portes, qui sont deux extrêmes. La première porte, c'est ce que l'on appelle « al-amnu min makrillah ». C'est se sentir à l'abri du stratagème d'Allah Azzawajal, de sa colère. Et c'est la phrase qu'on entend souvent aujourd'hui. « Allahu ghafurur rahim ». « Inna Allah ghafurur rahim ». Dès que tu parles à quelqu'un, il dit « Inna Allah ghafurur rahim ». Il a une bouteille de vin en main. « Akhi taqillah, reviens ». Il dit « Inna Allah ghafurur rahim ». Il continue à boire. On rigolait, mais il y a un frère, il n'y a pas longtemps, qui m'a raconté cela. Comme quoi, après la prière de l'aube, après le fajr, il a croisé un de nos frères, malheureusement, ivre, et qui disait cela. Il avait sa bouteille en main, il disait ça. Et le frère essayait de l'arracher à cette situation, et il continue à boire, il disait « Inna Allah ghafurur rahim ». Allah est clément, donc il est pardonneur et clément. Ou alors aussi la phrase classique et standard que l'on retrouve chez beaucoup de nos frères et sœurs, « Allah ihdina ». Dites « Amin ». Mais la bonne hidayah, pas celle-là, pas celle qui est standard, hein. Allah ihdina, c'est quoi Allah ihdina? Chez nos frères et sœurs qui sont un peu perdus. Donc tu dis à la sœur ou tu dis au frère, quand tu vas commencer à prier? Ou à la sœur, quand tu vas commencer à porter le hijab? Quand tu vas mettre dans le droit chemin? Alors il te répond la phrase classique, Baqi ma jatil hidayah. La guidance n'est pas encore venue. Comme s'il attendait une révélation, wahi. Il attend qu'un bon matin, un ange lui apporte une enveloppe, disant voilà, cher frère, chère sœur, c'est bon, tu peux revenir. Non, mes frères et sœurs, Al-Hidayah, la guidance, ne tombe pas du ciel. Al-Hidayah, ce n'est pas une enveloppe que l'on retourne dans sa boîte aux lettres. Al-Hidayah, c'est à toi de faire le pas. C'est à toi de faire le pas afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite ce repentir. Allah Azza wa Jal dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font des efforts en nous, vers nous, nous allons regarder des efforts. Il n'a pas commencé par l'Hidayah, il a d'abord parlé d'efforts, que le croyant fasse un pas, il fasse l'effort. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ensuite, lorsque le croyant fait l'effort vers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, c'est là qu'Allah Azza wa Jal nous guide vers ses sentiers à lui. Et un poète dénommé Abu al-Atahiyya, il disait, أَتَرْجُ النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا فَإِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ. أَتَرْجُ النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا. Regardez quel bel exemple qu'il nous donne ce poète. Il dit, أَتَرْجُ النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا. Souhaites-tu le salut alors que tu n'as pas suivi le chemin qui va te conduire? فَإِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ. Sache que le bateau n'avance pas sur de la terre sèche, le bateau va sur de l'eau. Mais l'idée, c'est la même chose. Donc cette phrase standard classique que l'on retrouve dans nos familles, Allah ihdina, amin, Allahumma ij'alna min al-muhtadin. La quelle condition, c'est que nous on fasse le pas. Pas courir dans son coin pendant des années, on stagne, on reste sur place, après on dit Allah ihdina. Na'am Allah ihdina, qui fait le pas pour qu'il te guide. Subhanallah, pour ça, tu dis Allah ihdina, mais par contre, lorsqu'on te dit, si demain on te dit, si tu es au chômage par exemple, et qu'on te dit que demain, à 5h du matin, c'est pas 10h, 11h du matin, à 5h du matin, à 5h du matin, le bureau de chômage distribue une prime de 70 000 ou 80 ou 100 000 francs belges, eh ben, croyez-moi, tu vas te lever pas 4 heures.
Voilà, exactement.
Vous avez bien répondu. Il va pas dormir tout simplement. À minuit, il est déjà devant la porte. Parce qu'il sait qu'il y aura du monde. Haji, pour Dunia, tu sais qu'il faut aller chercher la chose, tu vas la chercher. Mais lorsqu'il s'agit d'aller chercher le hidayah, la guidance, qui va te sauver dans l'au-delà, ça non, on attend la révélation, al-wahy. Allah musta'an. Vous voyez comment Satan a réussi à nous tromper? Donc, ça c'est la première porte qui nous ouvre, c'est la porte de l'espoir, c'est se dire non, il n'y a pas de problème. Koul Raoul, continue seulement. Tu es à l'abri de la colère de ton Seigneur. Mais Allah nous met en garde, mes chers frères et sœurs, lorsqu'il dit Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa al-qawm al-khasirun. Se sente-t-il à l'abri du stratagème d'Allah Azza wa Jal? Qu'il sache. Fala ya'manu makrallah illa al-qawm al-khasirun. En réalité, ceux qui se sentent à l'abri du stratagème d'Allah Azza wa Jal, al-qawm al-khasirun. Les gens qui sont voués à la perdition, ce sont ceux-là. Le croyant, non. Le croyant, il vit entre la peur et l'espérance. Ben al-khawf wa al-raja. La peur qu'Allah le châtie, le punit. Et l'espérance qu'Allah lui ouvre une petite porte de clémence et de miséricorde. Voilà. C'est comme ça qu'on doit vivre, mes chers frères et sœurs. Et aussi plus dramatique, c'est que Satan réussit, concernant les grands péchés, il réussit à les faire passer sous une bonne image. Tu tombes dans un grand péché ou dans un petit, il fait comme si, il t'apprend, il t'enseigne à te désintéresser à ce que tu as fait. C'est pas grave, malish. Inna Allah ghafurur rahim. Vous connaissez la phrase maintenant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet, il fait la différence entre le croyant al-mu'min et entre al-fajr et le pervers. Il dit dans Sahih Bukhari Muslim, Inna al-mu'min yara dhunubahu ka'annahu waqi'un tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayh. Subhanallah. Il dit le croyant, lorsqu'il voit qu'il fait des péchés, il a l'impression d'être sous une montagne et il a peur que cette montagne lui tombe dessus. Il se fait des remords à l'intérieur de lui-même. Il est malheureux et triste pour ce qu'il a fait. Par contre, l'exemple que j'ai dit là tout à l'heure, les 50 000, 60 000 ou 70 000 à 5h du matin, si tu rates, tu es déprimé pendant une semaine. Si tu rates, tu n'as pas, tu t'es pas réveillé pour aller au bureau de chômage pour ta prime ou ton salaire, tu déprimes pendant une semaine. Mais par contre, lorsque tu fais un péché, tu n'as pas de déprime. Il n'y a pas de problème, ça passe. Vous voyez comment les valeurs ou les choses se sont inversées. Par contre, وَإِنَّ الْفَاجِرْ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ يَمُرُّ عَلَى أَنْفِهِ فَيَقُولُ بِهِ هَكَذَا. Il dit, quant au pervers, il voit que ses péchés, c'est comme une mouche qui est passée près de son nez. Et donc, il la chasse avec sa main. Donc, c'est comme si c'est pas grave. Ce n'est pas un grave geste donc qu'il a commis. Et l'autre porte que Satan ouvre concernant les grands péchés, c'est la porte du désespoir. C'est faire en sorte que celui qui fait l'adultère, qu'il reste dans l'adultère. Que celui qui se drogue, qu'il reste dans sa drogue. Que celui qui boit, qu'il reste boire. Que celui qui est dans n'importe quel malheur, n'importe quelle turpitude, eh bien, il fait tout pour le garder dans cet état. Il lui fait croire qu'il est condamné, qu'il ne sait plus faire marche arrière, qu'il est voué à l'enfer. Alors qu'Allah Azza wa Jalla nous interpelle dans le Coran lorsqu'il nous dit, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم دي mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment لا تقنطوا من رحمة الله ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah إن الله يغفر الذنوب جميعا car Allah pardonne tous les péchés. Donc ici aussi Satan joue ce rôle que lorsque nous sommes dans des grands péchés, dans des turpitudes, il essaie de nous garder dans cette situation, de nous faire croire qu'on ne sait plus s'en sortir, qu'on est condamné. Et, subhanallah, un jour, un père de famille m'a dit, parlant de sa fille qui avait fugué, et lorsqu'il a essayé de récupérer sa fille et de la ramener à la raison, qu'est-ce qu'il lui répond ? Il lui dit, de toute façon, laisse-moi tranquille, moi je suis condamné à l'enfer. Vous voyez, c'est ça. C'est ça, al-yas, min rahmatillah. C'est ça, désespérer la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle s'est déjà condamnée elle-même à l'enfer, alors qu'elle est encore vivante, qu'Allah lui a donné ce pouvoir de se remettre en question, de se corriger. Non, elle a préféré se soumettre à Satan et de le laisser faire d'elle ce qu'il veut. Et vous devez savoir que ces deux choses-là, ces deux portes, qui est celle de se sentir à l'abri de la colère d'Allah Azza wa Jal, de son stratagème, de son complot subhanahu wa ta'ala pour châtier les désobéissants, et aussi l'autre porte, l'autre extrême, qui est de désespérer en sa miséricorde subhanahu wa ta'ala, ces deux portes-là constituent de grands péchés en eux-mêmes. Dans un hadith hassan rapporté par At-Tabrani, Al-Bazzar et d'autres, d'après le compagnon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet des grands péchés. Il dit « Al-Ishraku Billah » associé à Allah Azza wa Jalla. Ensuite il dit « Al-Ya'su min Rawhillah » désespéré en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième « Al-Amnu min Makrillah » c'est se sentir à l'abri du complot de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et également dans les grands péchés, qui je vous rappelle la troisième piste sur laquelle nous attend Satan, on a dit qu'il essaie de les embellir pour nous et de leur donner de beaux noms aussi. Alors par exemple, la musique, comment il va appeler la musique ? Il va l'appeler Al-Fan, l'art. Donc on ne dit plus Al-Mughanni, maintenant on dit Al-Fannan. Hein? Al-Fannan, l'artiste. Non, voilà, je ne cite pas des noms. Hein? Al-Fannan, donc l'artiste. Ou alors aussi Al-Riba. Al-Riba, l'usure, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré la guerre pour ceux qui le font. Il va appeler ça Fa'ida, profit. Vous voyez ce que c'est ? Aussi Al-Khamr, ça va vous étonner ça. Al-Khamr, qui est le vin, il va lui faire appeler ça comment ? Al-Mashrubat Ruhiyya. Les boissons spirituelles. Je ne vois pas ce qu'ils ont spirituel en réalité. Al-Mashrubat Ruhiyya. Donc les boissons spirituelles. Et ça, quelquefois, dans. Comment dire ? Il y a des compagnies, des fois arabes, pas dire musulmanes, des compagnies aériennes arabes, ils mettent ça des fois, qu'il est interdit d'amener avec soi, dans ses valises, Al-Mashrubat Ruhiyya. Boissons spirituelles. Par peur que ce passager soit en extase. Hein, et qui perd ses boulons. Très bien, donc on voit ici que Satan fait tout pour embellir la chose, lui donner un autre nom. Aussi, quelquefois, qu'est-ce qu'il fait ? Toujours dans les grands péchés, il nous fait croire que c'est pas grave ce qu'on fait. Parce qu'à un moment donné, il suffit que celui qui fait riba, par exemple, donne quelques sadaqat à gauche à droite, quelques aumônes, ou alors qu'il ait fait le hajj 15 fois, c'est bon, c'est parfait. Il a le titre. Donc il a le titre honorifique. Il a le statut, on l'appelle hajj. Donc c'est-à-dire qu'on a l'impression, mes chers frères et sœurs, que celui qui atteint le titre honorifique, entre guillemets, de l'hajj, tout est permis après. Tous les coups sont permis. Ilallah al-Mushtaka. Alors bien sûr, si le croyant réussit à se sauver de cette piste, qui est celle des grands péchés, par le repentir sincère et par la préservation d'Allah Azza wa Jal, Satan l'attend de nouveau sur une quatrième piste. Satan, l'infatigable, l'intrépide, il attend sur une nouvelle piste, qui est celle des petits péchés. Il n'a pas réussi à t'avoir dans le shirk et dans la mécréance. Il n'a pas réussi à t'avoir dans la bid'a, l'innovation. Il n'a pas réussi à t'avoir dans les grands péchés. Ah, et maintenant, on t'attend sur un nouveau terrain. Je suis là. Qui est celui des petits péchés. Sara'ir. Alors il le pousse à les faire. Il le pousse à les faire en lui faisant croire que c'est pas grave. Pourquoi tu n'aies pas peur ? Sache que quand tu fais de petits péchés, rappelle-toi, cher frère, que tes prières, Salat al-Jumu'ah, Ramadan, Al-Umrah, tout ça efface ces petits péchés. Et tant que tu évites les grands péchés. Donc vas-y, mollo, continue seulement. Tant que tu touches pas les grands péchés, continue les petits péchés, ma'lish. Tes prières que tu fais tous les jours les effacent. Tes sadaqat les effacent. et voilà qu'il a carte blanche pour continuer. Pas que le croyant se remet en question, il dit, même si je sais que ces actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elles effaçaient les péchés, malgré cela, je dois faire mon possible pour les éviter. Non. Eh bien, il continue à les faire, comme si de rien n'était. Et à titre d'exemple, al-riba, la médisance. Il essaie de lui faire passer la médisance comme étant une nasiha, comme étant un conseil, comme étant une façon de prêter al-nasiha li-dinillah, une façon de prêter un bon conseil pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Et il se permet de manger la chair de ses frères et sœurs, au nom de quoi? Au nom de la religion. Et il utilise des règles que les savants connaissent, comme par exemple la règle très connue dans les sens du hadith, al-jarh al-mufassal muqaddam ala al-ta'dil al-mubham. Donc la critique détaillée d'une personne passe avant ce qu'on appelle le caractère agréé de la personne. Donc en bref, c'est une règle assez compliquée, ça fait partie des sciences du hadith, je ne vais pas commencer à l'expliquer. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on cherche les défauts de la personne plus qu'autre chose. En écoutant des cassettes, en essayant de chercher les erreurs où elles sont, en allant à ses conférences par-ci par-là, ou encore carrément... en piégeant la personne par des questions. Bref, il y a pas mal de pistes et de méthodes qu'ils utilisent. Et après cela, ils font passer ça au nom de la nasiha. Alors que croyez-moi, wallahi thumma wallah, ça c'est le riba. Il n'y a rien à faire. Ça c'est le riba bi'ayniha. C'est la médisance. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُهُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Et ne pratiquez pas la médisance entre vous. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتٍ فَكَرِهْتُمُهُ. Regardez l'exemple qu'Allah donne pour montrer que la médisance c'est très mauvais. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ, l'un d'entre vous aime-t-il manger la chair de son frère alors qu'il est mort? أعوذ بالله. Certainement pas. Eh bien alors, on ne doit pas faire passer ça sous une belle apparence. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, qui pourtant avait pour mission, de par sa compétence, de critiquer les narrateurs qui rapportent les hadiths, de savoir qui est fiable, qui n'est pas fiable. Et malgré ça, il avait peur de faire une erreur. Il dit « Inni la arju an alqallah wa la yuhasibuni in irtabtu ahada ». Il dit « Inni la arju », il dit « Je souhaite rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il me demande des comptes au cas où j'aurais commis la médisance envers quelqu'un ». Et c'est pour cela que dans les sciences du hadith, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, est très 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 méfiant dans les termes qu'il utilise. Jamais il dit « Ce narrateur est un menteur, ce narrateur est un pervers ». Jamais, jamais il utilise ces termes-là. Il utilise toujours des termes nuancés, des termes très doux pour éviter de tomber justement dans ce concernant quoi il se méfie. Aussi, ce qui est important de savoir, c'est que Satan fait tout pour amoindrir ses péchés, faire en sorte qu'on les prend à la légère, comme si de rien n'était. Et dans un hadith rapporté par Ahmed al-Bazzar, que le Cheikh al-Albani rahimahullah a authentifié, il est dit « Inna shaytana qad aïsa an yu'bada bi ardikum, walakin radia lakum bima tahkirun ». Satan a désespéré qu'il soit adoré, que lui soit adoré dans votre territoire. Mais par contre, il va vous faire agréer, ou plutôt il accepte pour vous, que vous méprisiez les petits péchés. Donc toute turpitude, il fait en sorte que vous la passez comme si de rien n'était. Et certains salafs disaient, certains anciens disaient, ils disaient « La tanzur ila sighri al-ma'siya, walakin inzur ila 'idami man 'asayt ». Ne regarde pas la petitesse du péché, mais regarde la grandeur de celui à qui tu as désobéi. C'est comme ça qu'il faut faire, mes chers frères et sœurs. La cinquième piste, et nous arrivons vers la fin, inshallah. La cinquième piste, donc il est échoué durant toutes ces pistes à vous avoir, il y a encore un autre terrain où il attend de pied ferme. C'est ce qu'on appelle al-mubahat, les choses permises. Les choses permises de la dunya, qui ne sont pas interdites, qui sont permises. Il va tout faire pour que le croyant se préoccupe de choses permises, mubaha, halal, permises dans ce bas monde, et qu'il s'élargisse dans ses bienfaits au détriment de sa religion. Et qu'il oublie qu'il a des devoirs. Il va d'abord le pousser à s'accrocher à ça. Ensuite, il va le pousser à délaisser certains sunan. Ensuite, il le poussera à délaisser el-wajibat. Comme le commerçant, par exemple. Vous avez un commerçant musulman qui fait tout pour... Il prie, il est correct dans sa religion. Il fait les choses dans les règles. Mais il fait tout, bien sûr, pour gagner sa vie. Et il essaie d'élargir ses biens. Al-arzaq. Et qu'est-ce qui se passe? Il essaie d'élargir ses biens. Et puis, il oublie le reste. Il oublie que le croyant doit se concurrencer avec son frère dans le khairat. Dans les bienfaits. Dans les hasanats. Lui, non. Lui, il a vu, tiens, voilà, je sais, je gagne ma vie de façon licite, halal, mubah. Alors, il s'élargit. Qu'il s'agisse de biens, qu'il s'agisse de nourriture ou de vêtements. Donc, tout ça aussi, c'est important. Bien entendu, on ne dit pas ici que le croyant doit se détacher de ses affaires mondaines. Pas du tout. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهَ الدَّرَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَابْتَغِ فِي مَا أَتَاكَ اللَّهَ الدَّرَ الْآخِرَةِ. Souhaite, parce que tu as donné Allah subhanahu wa ta'ala, souhaite l'au-delà. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Mais n'oublie pas ta part dans ce bas monde. L'être humain doit vivre. Il n'y a rien à faire. Mais bien entendu, il ne faut pas que ces bienfaits dans ce bas monde l'emportent. Que ce soit la nourriture, que ce soit les vêtements, que ce soit les biens. Qu'on s'élargisse dedans, qu'on se laisse, qu'on s'immisce, qu'on se laisse aller. Et qu'on oublie, el-ibadat, qu'on devient faible dans les adorations, qu'on devient faible dans tout ce qui peut nous rapprocher de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il est important de savoir que souvent, lorsque le croyant essaye de s'élargir dans le moubah, dans le permis, quelquefois, il risque de tomber dans ce qui est entre le permis et l'interdit, ce qu'on appelle le mujtaba, le shubuhat. Quelquefois, il risque de ne pas vérifier une chose, s'il est licite ou non. Il se tient à l'apparence, il dit, c'est bon, tout le monde mange, tout le monde le prend, moi aussi je le prends. Alors que l'imam al-Nawawi, rahimahullah, un jour, on lui a proposé un fruit qui venait d'un parc public, d'un jardin public, que le sultan avait fait construire à Damas. Il a refusé de le manger. On dit, pourquoi tu refuses? Les gens, tout le monde mange. Il a fait non. Il a fait, j'ai peur que ce terrain sur lequel a été bâti ce jardin ait été un terrain confisqué injustement, donc par l'autorité. Donc il a peur que ce terrain sur lequel a été bâti ce jardin, il a peur que c'est un terrain qui a été volé ou confisqué et il ne veut pas tomber dans l'illicite. Donc le croyant, il lui a demandé, mes chers frères et sœurs, d'essayer de ne pas tomber dans l'excès et de faire en sorte que la dunya ne le trompe pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا هَذِي الْحَيَةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمُ لَعِبْ وَإِنَّ الدَّرَ الْآخِرَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ce bas monde n'est que plaisir et distraction. Alors que l'au-delà, c'est là qu'il y a la vie éternelle, dans l'au-delà. Et un jour, les compagnons ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Tirmidhi, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était assis. Donc il a dormi sur ce qu'on appelle hasir. Le hasir, c'est un sort de tapis fait de paille. Et lorsqu'il s'est levé, il y avait des traces sur lui. Il y avait des traces. Ça l'a marqué. Et c'est là que les compagnons ont dit, « Ya Rasulallah, ne veux-tu pas qu'on te mette ce qu'on appelle wita, donc une sorte de couverture un peu plus à l'aise ?»« Non, je ne veux pas. » Il a dit, « Ma li wulid dunya ?» Qui ai-je à faire avec ce bas-monde ? Il a dit, « Ma ana illa karakibin istadalla bi shajaratin thumma taraka. » Il dit, « Moi je ressemble à celui qui est sur le monture et qui avance en voyage et qui a trouvé un arbre sous lequel il va se mettre à l'ombre et qu'après ça il va partir. » Il dit, c'est comme ça qu'il nous donne la valeur de ce bas monde, que le croyant doit être prêt constamment pour rejoindre son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc il ne doit pas trop s'élargir dans les bienfaits, car lorsqu'il s'élargit dans les bienfaits, il oublie ses devoirs. Il oublie qu'il doit avant tout travailler pour l'au-delà. Un savant disait, « La yablughu haqiqata taqwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi » Hadhara mimma bihi ba's. Il dit, en réalité, le croyant n'atteint pas le véritable stade de la taqwa jusqu'à ce qu'il arrive à délaisser certaines choses qui ne sont pas répréhensibles par peur d'autres choses qui peuvent être répréhensibles. C'est-à-dire que certaines choses, si elles sont trop licites, on est peur qu'il y ait une graine d'illicite et qu'il gâche tout. La sixième piste et la dernière, s'il a échoué avec vous, à vous faire plonger dans ce bas monde, dans le dunya, à vous faire oublier l'au-delà, même si vous priez, même si vous jeûnez, même si vous lisez le Coran, eh bien, il vous attend sur un autre terrain. Il essaie de vous faire croire, c'est la sixième piste, il essaie de vous faire croire que certaines actions sont meilleures que d'autres. Alors qu'en réalité, lorsqu'on vient faire la balance, on voit que c'est l'inverse. Je vais vous donner deux exemples. Un homme, par exemple, à qui Allah a donné un savoir, l'ilm, mais lui aussi donné al-mal, l'argent, les biens. Et du coup, on voit cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à dépenser ses biens, son argent, fi sabilillah. Il construit des mosquées, des écoles, etc. Et ce savoir qu'il a, il ne le transmet pas. C'est très subtil. C'est un piège très subtil. Alors qu'ici, normalement, si on vient faire la balance entre l'argent et les biens et la science est plus importante. Car avec la science, tu peux sauver les gens d'égarement. Comme le disait Hassan Basri, rahimahullah, il dit, لولا العلماء لصار الناس كالبهائم. Il dit, s'il n'y avait pas les savants, les gens se seraient retrouvés comme des animaux. Pourquoi? Ils ne savent pas ce qui est halal, ce qui est haram. Ils ne distinguent pas l'un de l'autre. Et c'est grâce donc aux gens de science. Et un autre exemple aussi par rapport à ça, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné des talents, mawahib. Il a donné des talents qu'il peut mettre au service de sa religion, de ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère se retirer, passer son temps dans l'ibada, dans la lecture du Coran, dans le dhikr et l'istighfar. Et ces dons qu'il a, il est mis en veilleuse. Alors ici, on rappelle à ses frères et sœurs, vous avez des dons, vous devez savoir une chose, que vos ibadat, vos adorations, votre dhikr, vos façons de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, leurs effets bénéfiques ne vous concernent qu'à vous. Alors que ces talents que vous avez, ces mawahib, n'importe quel talent qui peut être profitable, qui est permis bien sûr, est profitable à la communauté, il sera bénéfique pour tout le monde, pas seulement pour toi. Et il y a une porte par laquelle Iblis entre ici, il vient vous faire croire que si vous vous mettez en avant, vous allez tomber dans l'ostentation et ria. Alors il vient par une bonne porte, mais il lui donne un sens qui est complètement faux. Pour t'écarter d'un bien, il dit non, écoute, toi tu sais bien parler, non, mets-toi de côté. Parce que fais attention, tu vas commencer à parler, ria va rentrer. Mets-toi de côté, non, c'est pas la peine. Abaden, on doit le combattre, le croyant bien sûr doit faire une mujahada, un combat sur lui-même. Mais il ne doit pas laisser Iblis le tromper par différentes. Ça, mes chers frères et sœurs, c'était donc les six pistes par lesquelles Iblis passe pour nous tromper. Alors pour terminer et conclure, comment pouvons-nous nous protéger de ces plans, de ces tactiques, de ces stratégies, de ces stratagèmes, de ces complots? Je vais vous citer quelques points qui peuvent nous aider. La première chose est l'ilm, la connaissance. Car Satan Car les gens ignorants, al-juhal, al-jahala, sont des proies faciles pour Iblis. Parce qu'ils ne savent distinguer ni ce qui est halal ni haram, ni ce qui est sunnah ni bid'a. Ils ne savent pas distinguer. Ils tombent rapidement dans l'illicite et tombent rapidement dans ce qui n'est pas permis. Alors que vous devez savoir une chose, que la meilleure façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lorsqu'on connaît notre Seigneur Azza wa Jal. إنما يخشى الله من عباد العلماء. En réalité, ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les ulama, ceux qui le connaissent, ceux qui ont le savoir, qui ont appris à connaître donc Allah Azza wa Jalla. L'imam Ahmed disait, rahimahullah, il disait أصل العلم خشية الله تعالى. Dit la base de la science, la base de la connaissance, c'est la crainte de notre Seigneur Azza wa Jalla. Ibn al-Qayyim, parlant de la science, il dit, et son importance, il dit, « Bihi yu'rafu Allah wa yu'badu ». C'est par le savoir qu'on apprend à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on apprend à l'adorer. « Wa yudhkaru wa yuwahadu ». Et c'est par la science aussi qu'on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on lui voue un culte unique. « Wa yuhmadu yumajjadu ». Et on loue Allah subhanahu wa ta'ala et on le glorifie. « Wa bihi tada ilayhi salikun ». Et c'est par le savoir, l'ilm. C'est par le savoir que les gens, que les croyants ont suivi leur chemin vers le Seigneur. Et c'est par le chemin de la science que les croyants sont arrivés aux portes du paradis. Il dit également, c'est par l'ilm, par la science, qu'on connaît les préceptes du licite et de l'illicite, de ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et aussi, le croyant, c'est là qu'il connaît la valeur des liens de parenté, des liens familiaux, etc. Deuxième façon de se préserver de Satan, travailler son temps par les adorations et par le dhikr. Car Satan ne sait pas s'approcher de vous si maintenant vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que lorsqu'on vous connaissez la surat al-Nas, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Également lire la surat la vache, surat al-Baqara aussi. Dans un hadith rapporté par Muslim, Ahmed et d'autres, le prophète sallam dit لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ. Donc ne faites pas de vos demeures des cimetières ou des tombes. Donc il faut prier également, surtout les nawafil, les prières surrogatoires, et les faire à la maison en particulier. فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ. Car la demeure dans laquelle on récite la sourate la vache, Shaitan n'y approche pas. Également, sixième, l'adhan aussi. Car il est relaté dans des hadiths authentiques que Satan, lorsqu'il entend l'adhan, il prend la fuite et fait un bruit très bizarre. Donc il dégage un bruit très bizarre parce qu'il ne supporte pas l'adhan. Et dès que l'adhan est terminé, il revient. Et lorsqu'il y a l'iqama, il repart de nouveau. Et puis il revient. Donc lui, il a ce truc aller-retour. Hein. Donc, comme l'a dit notre frère, il a le go-pass. Donc c'est aller-retour. Hein. Il n'a pas de visa lui. Et donc il revient et commence à influencer le croyant. Il essaie de l'influencer. Il lui rappelle dans sa prière. Et ça, c'est nous tous, on a eu ça. Il commence à nous. Du coup, lorsqu'on commence à prier, c'est là que le long, moyen, court métrage commence à se débloquer, un film qui se débloque devant nous. On doit penser à ça, on doit penser à ça, on doit penser à ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après cela? On ne sait même plus où on est arrivé dans notre lecture, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on a lu, et quelquefois on ne sait même plus comment on a fait, donc de la karat. Donc ça, c'est, mes chers frères et sœurs, les principales choses par lesquelles on peut se prémunir contre lui. Et vous devez savoir aussi, deux derniers points, vous devez savoir que Satan, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala, a fait que chaque croyant est accompagné par un Satan. Il y a des anges, il y a aussi un Satan. Et dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallam dit "Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi shaytan." Il dit chacun d'entre vous, il est accompagné par un Satan, on lui a assigné un Satan. Ils lui ont dit "Wa anta ya Rasulullah?" Il dit "Wa ana illa anna Allah qad a'anani alayhi fa aslama fa la ya'muruni illa bi khair." Il dit "Même moi, j'ai aussi un Satan à mes côtés. Mais simplement Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné le pouvoir sur lui. Il s'est converti et il ne m'ordonne que le bien." Donc on voit ici qu'on doit faire attention. Et dernier point aussi que je voulais citer, il y a un très beau livre, je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais il y a un très beau livre qui s'appelle Telbis Iblis. Oui, même le titre il rime. Hein. Telbis Iblis, donc les stratagèmes d'Iblis. C'est un livre écrit par un savant dénommé Ibn Jawzi qui nous parle comment Iblis a réussi à égarer beaucoup de monde. Il a réussi à égarer des savants, il a réussi à égarer des gens de piété, il a réussi à égarer des hommes, des femmes, bref, de toutes les catégories, a réussi à les égarer par ses pièges et ses tactiques et ses stratagèmes. Et c'est ici que s'arrête donc cette conférence. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.